affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il paraît que Jean d'Ormesson aimait citer Cioran et notamment cette sentence. Je ne comprends pas pourquoi le risque d'avoir un biographe n'a jamais dissuadé personne d'avoir une vie. Dieu merci, chacun le sait, cet avertissement, Jean d'Ormesson ne l'a pas écouté. Il l'a intensément vécu, embrassant avec passion tout ce qui peut rendre la vie supportable et même désirable. L'amour, les femmes, la politique, les bains de mer, le journalisme, les voyages, la philosophie et même la gloire, et pour corner le tout, bien entendu, la littérature. Autant d'ingrédients qui feraient de sa vie un excellent roman, autant d'ingrédients qui donc l'exposent plus que d'autres au risque d'avoir un biographe. Mais par chance pour lui, par chance pour nous aussi, il a beaucoup mieux, il a des amis, et notamment un ami fidèle en la personne de son confrère Jean-Marie Rouard, qui vient de publier chez Plomb un dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Un dictionnaire amoureux, vous en conviendrez, c'est beaucoup mieux qu'une biographie, c'est un dialogue, c'est une conversation. Et pour poursuivre cette conversation, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Jean-Marie Rouard. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, bonjour.
Dans la préface de votre dictionnaire amoureux, vous avouez d'emblée avoir hésité à l'écrire. Pourquoi donc cette prévenance ?
Écoutez, c'est un éditeur, l'édition Plomb, qui m'ont proposé d'écrire ce livre. Et je n'avais jamais écrit un dictionnaire amoureux. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime pas tellement forcément entrer dans une collection. Et j'ai commencé par refuser. Et puis le lendemain, je les ai rappelés et je me suis dit non. Non, je ne peux pas laisser passer cette chance de continuer à poursuivre un dialogue avec Jean d'Ormesson. J'allais dire, ce dialogue, je le poursuivais tout seul après sa mort, puisque nous nous sommes connus pendant près de 50 ans, je l'ai connu quand j'avais 18 ans. Et après sa mort, je continuais, je continue toujours d'ailleurs, il est très présent, il est à côté de moi, et je continue souvent à rire avec lui, parce que nous avons énormément ri ensemble. Voilà. Nous avions tous les deux, je crois que c'était la clé de notre amitié, une conception joyeuse de la littérature, une conception non pédante, une conception vraiment primesautière, buissonnière de la littérature. Et donc je me suis dit, tiens, je vais l'écrire. Et je l'ai écrit très rapidement. C'est d'ailleurs le plus rapide de la collection. J'ai mis 2 mois et demi à l'écrire. Et dans un état de bonheur, en même temps de tristesse à certains moments, parce que je réévoquais certains moments de sa vie, et puis il manquait, mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir écrit, au contraire, je crois que j'ai pu, en même temps, découvrir des choses que je n'avais pas saisies. Une chose, par exemple, que je n'avais pas mesurée, c'est à quel point il avait fui son milieu. Vous savez, dans Au plaisir de Dieu, il y a le château au Plessis-les-Vendreuil, qui est le Saint-Fargeau. Mais les gens le lisent comme si c'était un hymne, hein, une merveilleuse maison qu'on regrette. Et ils s'identifient à cette maison, parce qu'ils ont, tout le monde a une maison, quelquefois même une petite bicoque, et où on a des souvenirs d'enfance, des souvenirs avec une grand-mère, voilà. Et les gens se sont identifiés, ont cru que c'était de la nostalgie. En fait, pas du tout. Jean d'Ormesson a été libéré de ce château, comme il s'est libéré de l'aristocratie qui était installée dans ce château.
En même temps, comme souvent avec lui, il y a une forme d'ambivalence, il n'y a peut-être pas de la nostalgie, mais peut-être un peu de mélancolie, non ?
C'est un homme peu mélancolique, peu nostalgique. C'est un homme du présent. D'ailleurs, il l'a dit, il n'y a pas de passé, le passé n'existe pas, l'avenir n'existe pas. Nous sommes enfermés dans un éternel présent. Je crois que c'était un homme du présent. Du présent, mais ce qui n'empêchait pas d'avoir intellectuellement un intérêt fou pour le passé, pour le passé et pour les origines des mondes et une origine, et l'origine de l'homme. Donc, c'est pour ça que pour le définir, j'emploie une phrase qu'utilise Shakespeare pour l'amour, l'éternité plus un jour. L'éternité parce que, en permanence, son esprit se dirigeait vers les origines de l'homme, le Big Bang, et toutes ce que les questions philosophiques, le grand architecte de l'univers. Mais en même temps, il adorait le présent, il adorait un bain de mer, un sourire d'une jolie femme, enfin tout ce qui fait l'agrément d'une vie.
Oui, sur ce rapport au passé et au présent, vous citez Jacques Julliard qui nous disait qu'il condensait en lui le meilleur de l'esprit d'Ancien Régime et de la Révolution française.
C'est-à-dire il incarne le raffinement de l'Ancien Régime, une politesse extraordinaire, dont on n'a pas idée, une délicatesse, un raffinement, et en même temps, il appartient à notre époque, parce qu'il appartient à la méritocratie. Il a été normalien, agrégé de philosophie. Voilà, c'est un homme qui a été, de ce point de vue-là, il concilie les deux. Et c'est ce que les Français ont aimé. Parce que les Français adorent se réconcilier. Ils passent leur temps à se chamailler, les Français. Enfin, on l'a bien vu le 1er mai, c'est effrayant. Ou tout le temps, les Français sont en permanente discorde. Et en même temps, la seule façon de se réconcilier, c'est par un grand écrivain qu'ils admirent. Et ils retrouvent, au fond, les sources de la France qui sont littéraires. Ça, on ne le dit pas assez, mais on le voit chez les grands hommes d'État, chez le général de Gaulle, chez Napoléon. Ils sont profondément marqués par l'histoire et par la littérature.
Peut-être parce que la France, c'est une idée, finalement.
Oui, c'est une idée. Et elle est construite autant par les écrivains que par les politiques. Et je dirais même, elle est mieux construite par les écrivains que par les politiques, parce que les politiques, quelquefois, on peut se tromper, écrire, prendre des décisions monstrueuses, on ne va pas les évoquer ici, mais tandis que les écrivains ont plutôt apporté d'une manière positive, si vous voulez, on fait avancer l'esprit. Et d'ailleurs, très souvent, et on ne dit ça d'aucun autre pays, on dit la France, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de Rousseau, c'est le pays de Balzac, c'est le pays de Maupassant, vous voyez. Les écrivains sont capables de représenter, d'être la voix de la France.
Il fut un temps où les grands politiques étaient aussi férus de littérature. Et on peut peut-être rappeler que le pouvoir et la question politique a eu une place aussi dans la vie de Jean d'Ormesson. Quel était son rapport au pouvoir, justement, la question du pouvoir?
Vous savez, Jean d'Ormesson était curieux de tout et de tous. Il adorait tout et la politique, et je dois dire, de ce point de vue-là, nous avons été très proches, parce que moi, j'étais observateur politique pendant très longtemps, Figaro, Quotidien de Paris. Et cette interrogation sur les hommes politiques, mais je crois qu'il était plus sensible justement aux individualités, au roman de la politique. Le roman de la politique le passionnait. Alors, il avait ses préférences. Je crois que ces deux préférences, ça a été, bien sûr, De Gaulle, mais enfin, il n'a pas eu de lien avec De Gaulle. Ça a été Mitterrand, à cause du côté littéraire, parce qu'ils avaient de grandes conversations, et ils s'amusaient ensemble. Parce que ce qu'il y a... Jean d'Ormesson adorait s'amuser. Il adorait s'amuser. Et nous-mêmes, on, quelquefois, en nous baignant à Saint-Florent, on riait tellement en se baignant qu'on buvait la tasse, on a failli se noyer plusieurs fois. Donc, il aimait Mitterrand parce qu'ils étaient tout à fait sur la même longueur d'onde, même s'ils étaient séparés politiquement. Et je crois qu'il a beaucoup aimé Nicolas Sarkozy. Alors vraiment, c'est bien entendu. Il a aimé chez Nicolas Sarkozy à la fois cet homme tellement actif et en même temps cet homme un peu anticonformiste.
Il voyait un peu comme un personnage de roman, non?
Tout à fait. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est un vrai personnage de roman.
L'actuel aussi,
mais enfin, il a eu moins de liens avec lui, même si le président Macron a eu un très beau geste et a organisé une cérémonie qui était très belle aux Invalides, où j'ai moi-même pris la parole dans l'église, dans la cathédrale. Mais c'est vrai que déposer un crayon sur le cercueil de Jean d'Ormesson, ça avait beaucoup d'allure.
Alors, vous avez évacué rapidement la question de De Gaulle, mais finalement, C'est un passage obligé. Est-ce que vous permettez qu'on y revienne sur le rapport de Jean d'Ormesson et de Gaulle ? Nous tous Français, on a cette obligation d'avoir une opinion sur le général de Gaulle, si ambivalente soit-elle. Qu'en était-il de Jean d'Ormesson ?
Alors, c'est complexe parce que il me semble qu'il y a chez Jean d'Ormesson une tradition très républicaine à cause de son père. Et et c'est vrai d'ailleurs à propos de Napoléon, parce qu'il aimait beaucoup Bonaparte. Je ne suis pas sûr qu'il aimait Napoléon le conquérant. Et pour de Gaulle, c'était plus le restaurateur des institutions que peut-être tout ce qu'il pouvait y avoir, vous savez, d'un peu un pouvoir fort, un peu, je ne suis pas dictatorial, mais enfin, c'était quand même très fort, voilà, monarchique. Moi, ça ne me gêne ni chez l'un ni chez l'autre, parce que je considère qu'il faut pouvoir admirer un homme en bloc, même si on le critique. Moi, je critique le général de Gaulle largement par exemple sur la hiérarchie, mais pas sur le pouvoir fort. Et sur Napoléon, je trouve que c'est une formidable légende, mais je veux dire, il n'est pas comparable. Il faut le comparer avec ce qui existait à son époque, où la démocratie n'était pas vraiment très, très puissante à l'époque. C'était plutôt... Il n'y avait que des pouvoirs forts et dictatoriaux. Mais donc, je pense qu'avec le général de Gaulle, il aimait... l'homme de Londres, l'homme cette idée, puis ce formidable Paris qu'il avait fait en partant pour Londres, et en transportant cette idée de la France. Voilà, et c'est là où je le rejoins. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement courageux et prémonitoire. Et en même temps, il appréciait, bien entendu, l'écrivain de Gaulle et l'homme de culture de Gaulle, qui était vraiment, on le sentait, il était tissé par la littérature.
À propos de littérature toujours, il y a un personnage qui traverse l'ouvrage entier, et semble-t-il les pensées et la vie de Jean d'Ormesson, c'est Chateaubriand.
Ah oui, ben, Chateaubriand, il faut dire que... il s'est complètement identifié à Chateaubriand pour le meilleur et peut-être pour le pire. Pour le pire, je veux dire, pas très grave, mais enfin, pour le côté l'homme qui n'avait pas, qui avait avec les rapports conjugaux une très grande liberté, qui vivait dans l'adultère. Voilà. D'ailleurs, il y a une phrase de Chateaubriand qu'il citait tout le temps : l'amour, il est toujours trompé, fugitif ou coupable. Donc il y avait une très grande proximité sur la vie amoureuse de Chateaubriand. Et puis il se sentait aussi un point commun avec Chateaubriand, c'était d'avoir appartenu à deux mondes. Le monde d'Ancien Régime et le monde moderne, voilà, qu'il avait fallu. Mais il n'avait pas fait de la politique active comme Chateaubriand. Et d'ailleurs, je lui avais posé un jour la question, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'être ministre de la Culture ? Il dit, je n'aurais pas eu le courage de refuser. Enfin, il n'a pas été ministre de la Culture, mais il était directeur du Figaro.
Mais ça semblait s'imposer pourtant, ministre de la Culture, ben oui, sous Giscard.
Ben oui, oui, c'est bizarre, mais non. Non, non, mais ça faudrait poser la question à Giscard.
Écoutez, vous êtes mieux placé que moi pour lui poser la question. Sur Chateaubriand, vous mettez le doigt sur ces hommes qui sont entre deux mondes, mais on sent que Chateaubriand vit ce passage d'un monde à l'autre, on le sait, comme un déchirement. On comprend où va quand même sa préférence. S'agissant de Jean d'Ormesson, on le verrait plutôt comme un trait d'union. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui veut réconcilier ?
Oui, c'est-à-dire que la différence, c'est que Chateaubriand, quand il n'aime pas quelqu'un, il le dit. Et je pourrais même employer un terme un peu vulgaire, il balance ce portrait qu'il fait de Fouché et Talleyrand. On peut dire que c'est vraiment, il n'hésite pas à être méchant. Jean d'Ormesson avait horreur d'être méchant. Il ne voulait pas, justement, il ne voulait pas avoir d'ennemis, il faisait tout pour essayer de verser des litres et des litres de l'huile dans la mer pour que tout se calme. Il était vraiment un homme de paix, un homme qui ne voulait pas avoir d'ennemis, et c'est sa différence avec Chateaubriand. C'est vrai que Chateaubriand est capable d'avoir la dent très 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 dure.
Et c'était un mélancolique. C'est peut-être lié d'ailleurs.
C'était un mélancolique, Chateaubriand, tandis que Jean ne l'est absolument pas. Jean n'est pas dans la mélancolie, on ne peut absolument pas imaginer ce caractère d'être là, de se prendre la tête dans ses mains, en train de penser à un monde qui s'enfuit. Jean était en permanence présent, et jusqu'à la fin, moi, je l'ai emmené faire du ski à Val d'Isère à 89 ans. Je peux vous dire que, et nous avons fait une croisière en Turquie, il avait 91 ans. Je peux vous dire qu'il vivait chaque instant, un bon restaurant, une langouste dans son assiette, un bain de mer, tout. Il vivait vraiment sans mélancolie.
Ça aide à être gentil, peut-être, non ? La joie de vivre. C'est ça la recette ?
Oui, je crois que c'est différent. Non, c'est que je crois qu'il avait, dans sa jeunesse, souffert. Il était capable d'avoir la dent dure. Quand il écrivait dans le journal Art, il était capable de faire des critiques un peu acerbes, notamment sur Julien Green. Et puis après, dans les polémiques avec Bernard Franck, il a pu quelquefois être un peu vif. Et puis après, il s'est dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert, au fond ? La littérature doit être une forme de la réconciliation. Et je comprends ça. Moi, je comprends qu'on ne perde pas son temps à attaquer les gens qu'on n'aime pas, parce qu'il y a toujours des gens qu'on n'aime pas. Mais lui, il s'efforçait d'avoir un surmoi qu'il faisait de lui l'ami de tous les hommes.
Lorsqu'on l'observe de loin, superficiellement, notamment dans ses prestations médiatiques qui étaient nombreuses, car là aussi il est un trait d'union entre un monde qui est celui de l'écrivain dans sa superbe, et puis l'irruption d'un nouveau monde plus tourné vers la présence médiatique. En tous les cas, lorsqu'on l'observait, on était effectivement frappé par une sorte de regard à la fois malicieux et courtois. On découvre en lisant votre dictionnaire que c'était lui, ce n'était pas une posture.
Oui, il était malicieux, c'est vrai, il avait un regard joyeux, amusé, et de temps en temps, c'est vrai que dans la conversation, il pouvait être un peu moqueur, mais à condition que ça ne se sache pas, voilà, il ne voulait pas blesser. C'est quelqu'un qui... Et ça, c'est assez rare, parce que les écrivains, pour un bon mot, seraient prêts à se pendre. Non, lui était vraiment... Il avait... Pendant les 50 ans, où vraiment on s'est vu très souvent, et on se parlait quasiment tous les deux jours au téléphone, je crois que je n'ai jamais vu avoir envie de nuire à quiconque. Voilà, c'est un homme qui était au-delà, alors que ce n'était absolument pas un chrétien. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Moi, je me sens chrétien. Chrétien pas très catholique, c'est-à-dire pas très pratiquant. Mais c'était une grande divergence. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une très belle phrase de Romain Gary qui dit « j'ai mal chez les autres ». Moi, j'ai mal chez les autres en permanence. Et puis j'ai mal en moi-même. Lui n'avait pas mal en lui-même, il n'avait pas mal chez les autres. C'était pas du tout chrétien. C'est une forme de paganisme. C'est un païen avec ses réflexions telles que pouvait en avoir Aristote ou Platon, justement, sur l'univers, sur les origines de l'univers. Et sa conception de Dieu n'était pas du tout une conception chrétienne. C'était une conception vraiment de philosophe du XVIIIe siècle.
Vous le définissez comme païen, de fait, dans sa vie personnelle, qui était aussi un petit peu la vôtre, ce goût pour les bains de mer, pour la Grèce, pour l'Italie, on sent quelqu'un, une personnalité solaire, en quelque
oui,
sorte.
Solaire.
Mais en même temps, vous avez évoqué Aristote, et la métaphysique a une immense place dans sa vie. Il doit y avoir quand même un sentiment du gouffre, non ?
Non, mais intellectuellement, c'est-à-dire c'est vraiment une approche philosophique de la métaphysique. C'est pas du tout, disons, ce sentiment de ça n'entraîne pas chez lui, disons, une approche ni chrétienne ni vraiment catholique. Vraiment, je ne trouve pas. Et puis, il y a quand même des doutes terribles, puisque il disait qu'il était agnostique, mais enfin, il dit quand même rien ne nous précède. Nous vivons et puis rien ne nous succède. C'est-à-dire, l'homme est quelque chose entre le rien et le rien. Donc, c'est quand même très pessimiste de ce point de vue-là. Même s'il y avait une forme de spiritualisme, et je crois qu'il croyait à la permanence de l'esprit.
Et cette obsession du temps,
Oui,
du temps qui passe et du temps.
Ça, c'est quelque chose chez lui, c'est vraiment. Mais très jeune, enfin très jeune. Et d'ailleurs, il n'a aimé que les gens qui se sont intéressés au temps. D'ailleurs, le dernier philosophe que je cite, c'est Zénon d'Élée, qui est un philosophe du temps. Mais vraiment, tous les gens qui sont intéressés au temps, que ce soit, bien entendu, Chateaubriand, et aussi Proust. Je crois que c'est la littérature. Ce qu'il aimait dans la littérature, c'était les gens qui se posaient la question du temps. Mais là encore, c'est une question philosophique. Je ne pense pas que lui-même était en train de se dire « je vieillis, qu'est-ce qui se passe ?» ou bien dans la nostalgie, ou bien dans l'appréhension de la mort. Non, pas du tout. C'était philosophiquement se dire quelque chose étonnante. Et ce temps, est-ce qu'il n'existe que pour nous? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de temps dans d'autres planètes? Enfin, c'était toujours très une approche philosophique.
En revanche, là où on pourrait le qualifier presque de chrétien, c'est la gratitude. C'est quelqu'un qui rendait grâce.
Oui, ah oui, ça c'est vrai. Alors ça c'est vrai.
Et c'est l'entrée que vous appelez merci.
Oui.
Il remerciait tout le temps.
Il ne cessait pas d'ailleurs. Bernard Franck s'était fichu de lui. Et il disait, il avait fait un pastiche de Jean d'Ormesson en disant merci la vie, merci les femmes, merci papa, merci maman. Non, c'était, il passait son temps à remercier. D'ailleurs, il y avait un livre qui s'appelait Au revoir et merci. Le mot merci compte énormément.
Mais là c'était un peu acide dans Au revoir et merci.
C'était un peu acide, oui. C'était un peu le moment où il considérait qu'il n'avait pas sa place dans la littérature. Mais enfin, il a vite retrouvé sa vraie place dans la littérature. Parce que c'est vrai que je l'ai connu. Moi, j'avais 18 ans, lui, il avait 20 ans de plus. Et c'était un écrivain qui n'était pas du tout apprécié. Tout petit tirage, les gens se moquaient un peu de lui. Enfin bon. Et puis, je l'ai vu évoluer et devenir le grand écrivain national. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il était le même, avec un regard ironique. Et il a accepté la gloire comme aussi bien qu'il avait accepté l'insuccès.
Comme un don.
Oui, comme une grâce du ciel, au fond. Il se dit. Alors, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai suffisamment dit, moi, j'étais un homme ambitieux, arriviste, j'essayais d'obtenir des choses, je voulais me présenter à l'Académie. Enfin, vous savez, on n'est pas à l'Académie si on l'a pas désiré. Bon. Et vous savez, je me présente, enfin, il ne faut pas trop le répéter, mais je me suis présenté 5 fois. Comme Victor Hugo. Donc, mais Jean, ça lui est arrivé tout cuit dans le bec. C'est-à-dire, il n'a pas eu à faire d'effort. Moi, j'ai dû ramer. Mais, si vous voulez, c'était notre différence, c'est que lui obtenait tout très facilement. Très facilement, il y avait une sorte de grâce. Il faut dire que c'était un homme que tout le monde aimait. Il avait. Et Paul Morand le remarque, d'ailleurs, à un moment, dit. Bien sûr, il n'a pas d'ennemis, d'ennemis, il n'en a aucun, mais en plus, tout le monde le trouve sympathique.
Alors, son rapport, non pas à l'honneur, mais aux honneurs, parce qu'il en était couvert. Comment continuer à avoir la fibre littéraire, c'est-à-dire quand même, ça nécessite quand même un certain regard décalé, la littérature, ça oblige à se décentrer, et le voilà qui se retrouve au centre de tout. C'est compliqué, non?
Non, je crois que pour un écrivain véritable, c'est pas du tout compliqué. Pour un écrivain véritable, c'est-à-dire quelqu'un qui sait très bien l'impermanence des choses. Et très souvent, il avait une très bonne mémoire, mais très souvent, il avait une phrase qu'il n'arrivait pas à retenir, il me demandait de la lui répéter. C'est une phrase d'Henry James. Il dit, nous vivons dans l'obscurité, nous faisons ce que nous pouvons, le reste est la folie de l'art. Voilà. Il savait très bien qu'il avait bénéficié d'une chance extraordinaire, littérairement, avec le succès, mais que cette chance pouvait très bien ne pas durer, et puis qu'après lui, il pouvait trop bien retourner dans l'obscurité. Et vous savez, tout artiste vit dans le désir d'exister, de rencontrer, si possible, quelques amis qu'il lise, d'amis au sens littéraire du terme, de rencontrer, si possible, un public, si possible, le succès, si possible, des prix littéraires, si possible, l'Académie, si possible, le Nobel, la Pléiade. Mais s'il n'a rien de tout ça, il a toujours la consolation de se dire mais Baudelaire, mais Verlaine, mais tous ces immenses écrivains, eh bien, ils n'ont connu que des avanies et Tchekhov. Bon, vous savez, la littérature, l'art, c'est le domaine de l'échec. C'est le domaine de l'échec. Et il faut le savoir. C'est pour ça que quand les gens ratent le concours, ils disent « je vais me cesser d'écrire » ou quand ils sont battus à l'académie, ils sont désespérés, ils disent « je ne me présenterai plus ». Non, ça n'a rien à voir. L'aspect social des choses, et ça, Proust l'a magnifiquement dit, en parlant du moi profond et du moi social, le moi profond de l'artiste, son désir de faire une œuvre, c'est le désir d'exister, si peu que ce soit, d'avoir une petite place, un strapontin dans la littérature. Et puis tout ce qui est social, ben, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours merveilleux, c'est plus agréable d'avoir en effet des insuccès en ayant sa place. Voilà. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de Barrès. Il dit « tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser ». Eh bien, il me semble que ça, c'est quelque chose qui est très spirituel. C'est-à-dire que les tentations du pouvoir littéraire, les tentations d'avoir des reconnaissances littéraires, eh bien, peuvent nous dissimuler l'essentiel. L'essentiel, c'est le spirituel. C'est le spirituel, et je crois qu'il y a un lien très profond entre l'art et le spirituel.
Vous avez parlé de Jean d'Ormesson à l'époque où il n'avait pas la stature et le succès qu'on lui a connu par la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler du jeune écrivain Jean d'Ormesson ? À l'époque où il écrivait dans Art et dans La Parisienne, une revue presque oubliée aujourd'hui.
Oui. Il était beaucoup plus tendu. Il était beaucoup plus tendu parce que il était normalien, il venait d'écrire des livres, et il n'avait pas du tout de reconnaissance, et il aurait voulu être Sagan à ce moment-là. Ses amis de La Parisienne se moquaient un peu de lui. Paul Morand le regardait comme une quantité tout à fait négligeable. Alors, il était beaucoup plus tendu. Il aspirait à quelque chose qui ne venait pas, qui était la reconnaissance. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un homme, de ce point de vue-là, différent. Mais autrement, dans la conversation... Et là, il y a une chose importante, peut-être, c'est que dans la conversation, autant il parlait de lui dans ses livres. Il est le sujet de tous ses livres. C'est toujours Jean qui rit, Jean qui pleure. Bon. Mais en revanche, dans la conversation, il parlait très peu de lui. Très peu de lui, c'était un homme, il fallait lui poser des questions, mais il avait une très grande pudeur à parler de lui.
Il y a une sorte de culte de l'amitié, des relations sociales, de l'amitié, un art, on l'a dit, de la conversation, mais aussi un art de recevoir. Ça, on peut très bien l'imaginer. Est-ce que vous pouvez nous développer cette idée, nous expliquer comment il se comportait avec les gens qu'il estimait ?
Écoutez,
je pose la question parce que je pense que c'est quelque chose de tellement français. Voilà.
Il était un homme de cette tradition française du XVIIIe siècle. D'ailleurs, il était beaucoup de choses chez lui du XVIIIe siècle. Il était, d'ailleurs, sa conception du mariage était celle d'un homme du XVIIIe siècle. C'était le mariage, c'est un contrat. Moi, je suis plutôt du XIXe. C'est-à-dire, je suis plutôt un romantique qui croit à l'amour. Voilà. Lui. Il croyait aux amours, mais je ne sais pas s'il croyait à l'amour. Et comme Marie, bon, c'est archi-connu, c'était un homme, il y avait quelques coups de canif dans le contrat de mariage. Mais c'était sa conception du XVIIIe siècle. Et avec ses amis, c'est vrai qu'à un moment, je parle du chapitre adultère, là, et je dis il était contre le protectionnisme amoureux. Il était pour le libre-échange des corps, voilà. Et même avec ses amis très proches, avec moi, on va franchir le mur de la vie privée, mais il essayait de me piquer, dès que je venais avec une jolie fille, il essayait de me la piquer, je dirais. Et sa part, c'était pas du tout... C'est pas comme Don Juan qui veut faire mal. Il considérait que c'était d'abord un honneur pour la jeune fille, un honneur pour moi. Et alors, dès le départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui casse la gueule? Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Donc, si je veux rester ami avec lui... Donc, je me suis décidé de faire une chose... très présomptueux, j'ai décidé de faire confiance aux femmes.
nous évoquions ces jeunes années dans Art et La Parisienne. J'ai redécouvert, je l'avais oublié, qu'il faisait partie de ces jeunes turcs turbulents de la littérature française qu'on appelait les hussards. Pour autant, il a une place un peu particulière dans cette bande-là. Est-ce que vous pouvez nous en définir les contours ?
Oui, d'ailleurs... Politiquement, on ne peut pas dire qu'il était ni Algérie française, ni anti-gaulliste, comme étaient les hussards. Parce que les hussards étaient vraiment, sauf Nimier peut-être, qui a commencé par être gaulliste. Mais il était très différent dans la mesure où les hussards vivaient dans une forme de nostalgie. Une nostalgie d'une sorte d'ancien régime, d'ancien temps. Ils étaient nostalgiques et ils étaient dans la polémique. Et puis dans l'anti-sartrisme contre les temps modernes, contre Sartre, Simone de Beauvoir. Alors que Jean avait une certaine estime pour Jean-Paul Sartre. Et il disait, il y a un moment, il y a une comparaison que je fais avec Raymond Aron. Il dit, Raymond Aron est très intelligent. Il ne dit jamais de conneries. Mais Sartre dit beaucoup de conneries, mais on sent qu'il connaît la littérature, ce qu'Aron ne connaît absolument pas. Donc vous voyez, il était indulgent vis-à-vis de Sartre, avec ses erreurs, sa négation du goulag, enfin son communisme aveugle. Bon, mais néanmoins, la littérature faisait qu'il avait une forme de tendresse pour Jean-Paul Sartre.
Est-ce qu'il le reliait au hussard ? C'était donc également la littérature ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, ce qu'il le reliait... Et puis, c'était cette forme de liberté, liberté d'opinion, liberté d'esprit, qui était tellement... Après la guerre, ça a été un peu lourd. Il y a eu une période un peu lourde, si vous voulez, de règlement de compte. Voilà, et toute la bande des hussards avec Marcel Aimé, avec un certain nombre d'écrivains, ont tenté de soulever cette chape un peu lourde, comme à ce moment-là, un homme qui était très différent de Jean d'Ormesson, qui était François Mauriac. Pour dire que François Mauriac, qui a eu le même rôle au Figaro, qui a eu un rôle colossal au Figaro, mais c'était un aspect complètement différent, c'était l'écrivain à la fois officiel, mais capable de méchanceté et capable de combats formidables, parce que ça a été un journaliste très 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 courageux.
Cette époque-là, et notamment l'aventure des hussards, se catalyse aussi sur la conception du roman. Mais alors là, pour le coup, il s'en sépare nettement, puisque dans tous les débats qui se portent sur la littérature, l'avenir du roman, il a une position très originale, Jean d'Ormesson, qu'on n'imagine pas quand on le voit comme ça, comme une sorte de commandeur conservateur à la tête du Figaro. S'agissant du roman, il est plutôt hors champ. Enfin...
Il fait exploser le roman. Et ça, c'est là où je me sépare de lui. Je me sépare de lui, alors que vraiment, je suis tellement proche avec lui dans sa conception de la littérature, au-delà de la pédanterie, des emmerdeurs, de l'ennui, des gens qui ont une conception sinistre de la littérature. Autant je me sépare de lui sur le roman, c'est qu'il a cru, enfin, mais parce qu'il le ressentait comme ça. Moi, mon explication, c'est que un romancier, un créateur de personnages, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui introduit dans ses personnages ses souffrances. Les personnages de Balzac, ce sont ses souffrances. Les personnages de Stendhal, ce sont ses souffrances, ses humiliations. Les personnages de Maupassant aussi. Jean n'avait pas de souffrance. Il n'avait pas de souffrance, il était en harmonie avec le monde qui l'entourait. Moi, je souffre dans le monde qui m'entoure, j'ai envie de l'améliorer, j'ai envie de me battre contre la justice dans l'affaire Omar Radad, où il est venu d'ailleurs me défendre, mais de loin. Vous voyez, il n'était pas prêt à s'engager dans ce genre de combat. Non, Jean était bien dans le monde dans lequel il vivait, donc il avait une approche du roman qui était une approche philosophique. Il écrivait des romans à la manière de Voltaire, c'était des romans philosophiques, et il a cassé le moule du roman en faisant des romans avec des arguments philosophiques où il y a très peu de personnages. Il y a peut-être un personnage, c'est le grand-père dans Au plaisir de Dieu. Mais autrement, on ne retient pas un personnage. On retient des histoires, on retient un ton, on retient un style, mais pas des personnages.
Une conversation.
Ah ben là, une conversation éblouissante. C'est peut-être un maître de la conversation. Mais disons, ce qu'il y avait de formidable, là encore, c'était le 18e. Au 18e, cette idée d'être à la fois léger et profond dans tous les déjeuners et les dîners qui avaient lieu, c'est autre chose évidemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, comme disait Jean-François Revel, les gens sont devenus allemands. C'est-à-dire qu'ils sont devenus vraiment très sérieux, des docteurs, air docteurs.
Oui, ils sont devenus lourds.
Oui, ils sont devenus lourds. Tandis que c'est vrai que Jean d'Ormesson nous présentait cette légèreté qui est celle de... tellement française. Elle est celle de La Fontaine, elle est celle de Voltaire, bien entendu, mais de Musset, de Beaumarchais, et mais également de gens comme Sacha Guitry. Vous voyez, c'est des gens très légers, très profonds, et qui avaient une conception joyeuse de la littérature et de la vie.
Alors faisons maintenant un pari sur l'avenir. Voilà quelqu'un qui est devenu un monument de son vivant, qui est entré dans la pléiade de son vivant. Chose rare s'il en est. Comment imaginez-vous la postérité de l'œuvre de Jean d'Ormesson dans le monde tel qu'il va ?
Vous savez, on ne peut jamais imaginer la postérité d'un écrivain. C'est impossible. Il faut s'imaginer que Montaigne, qui est quand même... C'est pas rien, Montaigne. Et bien, pendant deux siècles, personne ne l'a lu. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, personne ne s'intéressait à Montaigne. Personne ne le lisait. Et même Pascal, qui en parle, dit le sot projet qu'il a eu de se peindre. Et puis, ça a été la même chose du vivant de Romain Gary. On considérait que c'était un écrivain très médiocre. Et ce n'est qu'à sa mort qu'on a découvert que c'était un superbe écrivain, magnifique. Ça a tellement varié. Et c'est pas le talent qui amène les gens à la postérité. Parce que, regardez quelqu'un comme Anatole France, Les Dieux ont soif, c'est un chef-d'œuvre. C'est un très grand écrivain, Anatole France. On ne le lit plus. C'est la même chose pour tellement d'écrivains qui ont ou Maurice Barrès. Maurice Barrès.
Qu'aimait beaucoup Jean d'Ormesson,
mais c'est vrai, il a complètement disparu. Et Monterland, qui est un sublime écrivain, il a disparu aussi. Donc, si vous voulez, en revanche, Stendhal, dont personne ne parlait, il a fallu 50 ans pour qu'il arrive, grâce à Paul Bourget, et bien, qu'il ressuscite. Et ça a été le cas aussi de Benjamin Constant. Donc, on ne peut jamais savoir de quoi sera faite la postérité. Et c'est très bien comme ça. C'est quelque chose, vous savez, ce qu'il y a de formidable, c'est d'exister. Il ne s'agit pas d'être tout le temps dans les lumières du siècle. Regardez un écrivain qui est très peu connu, un poète, hélas peu connu, mais qui est merveilleux, que Jean adorait, et Michel Déon aussi d'ailleurs, qui est Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet, c'est un merveilleux écrivain. Bon, eh bien, il est publié dans la collection Bouquins, mais en dehors de ça, il est très peu connu. Il a écrit des romans merveilleux, Mon ami Nan, des poèmes qui sont sublimes. Bon, est-ce que c'est très très grave ? Non, la littérature, ce ne sont pas les Jeux Olympiques. Il n'y a pas un premier, un dernier. La littérature, ce qu'il y a de formidable, c'est de pouvoir participer à la littérature. Voilà, moi, mon ambition, ma joie, c'est d'avoir pu connaître, quel que soit l'avenir, d'avoir pu connaître les angoisses et les bonheurs d'un Tolstoï ou d'un Balzac. Puis après, vous savez, il ne faut pas se poser la question.
Paul Jean Toulet pouvait en tout cas se consoler de son relatif effacement en apprenant que Jean d'Ormesson aurait préféré être Paul Jean Toulet que Charles de Gaulle.
Ah oui, 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 c'est le moment. C'est le moment où je crois que c'est Bernard Pivot qui lui avait posé la question entre un grand homme politique et bien entendu, et un écrivain. Mais il n'y avait aucune hésitation, il préférait être l'écrivain le plus méconnu plutôt qu'un n'importe quel homme politique.
Pour revenir, non pas à la postérité, mais à l'instant présent, quel motif donneriez-vous à l'un de nos auditeurs qui ne connaîtrait pas l'œuvre de Jean d'Ormesson pour s'y plonger ? Quels agréments pourrait-il y trouver ? Comment pourriez-vous le convaincre, les plus réticents, de se plonger dans cette œuvre ?
Écoutez, je crois que les gens n'ont pas été très réticents à lire Jean d'Ormesson, mais moi, je vois, il y a deux livres que j'aime beaucoup. Il y a bien sûr « Au plaisir de Dieu », qui est un merveilleux livre dans lequel il y a cette phrase extraordinaire. Quand chez ces jeunes garçons qui sont là, qui sont dans le château, il y a un précepteur qui arrive et le narrateur dit « Il nous a fait découvrir un monde qui était en nous et nous ne le savions pas. » Voilà. Ce monde qui était en nous et nous ne le savions pas, ça, je trouve ça merveilleux. Et toute l'histoire de ce château et de ses habitants est formidable. Et puis il y a un autre livre que je trouve aussi merveilleux, c'est sa biographie de Chateaubriand. Parce qu'il est présent à chaque ligne dans sa biographie de Chateaubriand. Donc c'est à la fois une autobiographie, c'est peut-être sa meilleure autobiographie, c'est celle à travers Chateaubriand, parce qu'on sent qu'il vibre sur Chateaubriand. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de textes qu'on peut lire de lui, des critiques formidables, un portrait de Giscard d'Estaing que je cite dans mon livre qui est extraordinaire. Non, c'est un homme qui a fait avancer l'esprit. Alors, ça, c'est déjà très, très important. Alors, il y a des livres qu'on peut préférer à d'autres, mais je crois que c'est pas un écrivain qui vous laisse indifférent. Et en tout cas, donc, c'est pas quelqu'un qui vous désespère sur l'avenir. C'est quelqu'un qui vous donne des vitamines de bonheur et des vitamines d'espérance.
C'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui en France, des vitamines de bonheur et d'espérance et d'esprit français.
C'est sûr, c'est pas Houellebecq, mais c'est le contraire de Houellebecq même, on pourrait dire. Et on peut offrir, une grand-mère peut offrir un livre de Jean d'Ormesson à sa petite-fille ou à son petit-fils pour sa première communion. À mon avis, c'est pas le cas d'un livre de Houellebecq.
Cela dit, sans vouloir défendre Houellebecq, peut-être que Houellebecq pointe le doigt sur un mal nihiliste, un aspect dépressif qui existe dans la cité française, et d'Ormesson pourrait être l'antidote de...
Oui, mais je pense que Houellebecq, c'est pas le sujet, mais notre conversation. Mais néanmoins, je trouve que Houellebecq pousse la provocation à un degré où il sort de la littérature. Franchement, dans son dernier livre, lorsqu'il parle de fellation canine, on dépasse justement. Ça devient un commerce pour choquer le bourgeois et d'une certaine façon. C'est banal. Voilà, je trouve que... c'est un écrivain très remarquable. Hein. Moi, je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour Houellebecq. Mais il y a des moments où on sent la fabrication et on sent la provocation qui devient un argument aujourd'hui dans notre société qui est perdue. Disons, je trouve que ce sont des livres qu'on n'a pas envie de relire. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Et c'est là, moi, ce qui fait le critère pour moi d'un livre, c'est de belles phrases et d'avoir envie de les relire.
En tout cas, pour ma part, après avoir lu votre dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, j'ai eu envie de lire et relire Jean d'Ormesson. Donc, j'imagine que l'objectif est atteint. Et j'incite nos auditeurs à s'y plonger, car c'est une merveilleuse introduction à l'homme et à son œuvre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour évoquer votre ami Jean d'Ormesson.
Merci.